Nous avons vu dans le dernier chant des aspects de la vie chrétienne que nous servons le roi, celui qui règne, son trône. Même on parle des œuvres que nous accomplissons pour le roi. Nous voulons le servir. On a vu aussi l'aspect de la délivrance de Dieu, qu'il nous sauve et il nous amène dans son lieu de paix, de repos. Il y a plusieurs facettes qui décrivent la vie chrétienne. C'est sûr qu'une facette principale, c'est pour ça que nous sommes assemblés, c'est que nous voulons adorer Dieu. Mais pour la vie de tous les jours, qu'est-ce qui caractérise le plus la vie chrétienne? Est-ce que c'est le travail, les œuvres que nous faisons pour Dieu? Ou c'est le repos en Dieu? C'est difficile de choisir. Hein? Ah, c'est bon. En fait, ça dépend de quel point de vue on se place ou dans quel contexte on est en train de parler. C'est les deux, c'est sûr. Et la Bible mentionne les deux. Puis c'est intéressant aujourd'hui dans le texte d'Exode où on est rendu. Dieu juxtapose deux passages, deux messages qu'il adresse. Après avoir décrit tout ce qu'il voulait pour la vie en général, pour son peuple, les 10 commandements, toutes les ordonnances, et après avoir décrit comment il veut que son peuple lui voue un culte aussi, le serve. Il a décrit le tabernacle, comment il doit être construit, quel sera le travail du sacrificateur. Il arrive avec des dernières paroles qui montrent deux aspects de la vie de son peuple, qui est le travail, le service pour lui, et le repos. On va commencer par le travail. Je vous demande de tourner dans Exode 31, à partir du verset 1. Donc, Exode, le deuxième livre de la Bible, tout de suite après Genèse, chapitre 31. On va lire de 1 à 11 pour commencer. Donc, Exode 31, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver des pierres à enchâsser, pour tailler le bois, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans son cœur, et dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tous les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je l'ai ordonné. » Donc, après avoir tout montré à Moïse, il lui a décrit, on a lu la description qu'il a faite, même on apprend qu'il a montré, donc Moïse a pu voir le tabernacle, a eu de ses yeux, il a vu ce que ça aurait l'air. Mais Dieu désigne maintenant des personnes pour faire ce travail-là, pour s'assurer que ça soit fait selon ce qu'il veut. Et il appelle Betsaleel par son nom. C'est impressionnant, ce n'est pas seulement un ordre qu'il est en train d'établir, les constructeurs, ceux qui seront à son service, un titre ou une fonction, c'est vraiment une personne qui l'appelle à une tâche précise. C'est tout un honneur. Et même Betsaleel signifie « à l'ombre de Dieu » ou « sous la protection de Dieu ». Ici, Dieu ne souligne pas son nom, mais puisqu'il l'appelle par son nom, je pense que ce n'est pas un hasard. Dieu l'a fait grandir, l'a fait naître avec ces capacités-là. Et en plus, c'est rendu à un certain point, il l'a protégé toute sa vie, mais il lui a donné son esprit, sa sagesse, son intelligence. Il l'a rempli de capacités, des compétences pour faire des ouvrages ici. On se serait attendu, lorsque Dieu décrit qu'il a rempli un homme de l'esprit, de sagesse, d'intelligence, qu'il allait faire de lui un prophète, un dirigeant, un libérateur. Mais non, c'est pour lui faire des tâches manuelles, concevoir des plans, diriger une équipe de travail. Ça montre que l'Esprit de Dieu, en fait, vient toucher toutes les facettes du travail d'un serviteur de Dieu. Même il a donné son esprit à Oholiab, qui allait être son assistant, et à toutes les autres personnes qu'il allait désigner, qui allaient contribuer à la fabrication des planches, tailler les pierres, confectionner les tissus. En fait, Bezaliel allait être comme le responsable de tout cela, assisté par Oliam, mais il allait travailler en équipe avec tous les gens que Dieu allait désigner. Et on se rend compte dans les chapitres plus loin que finalement tout le peuple y met contribution puisque Dieu demande au peuple de venir donner de leurs matériaux, des objets qu'ils ont, des objets précieux. Donc en fait, il y a ceux qui vont travailler concrètement à la construction du tabernacle, mais tout le peuple va être engagé dans cette œuvre-là, d'une manière ou d'une autre, et entre autres en permettant à ces hommes-là qu'ils soient mis à part pour faire cette œuvre-là, en contribuant par les biens qu'ils vont donner. Et donc, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu accomplissait sur la terre en ce moment-là, la principale, c'était la construction du tabernacle. Et c'est pas une petite œuvre. C'est Dieu qui venait habiter parmi les hommes. C'était jamais arrivé depuis la chute de l'homme, depuis le péché d'Adam et Ève. Dieu s'était retiré. Et maintenant, il permet aux hommes de lui construire un lieu saint qui devrait être purifié. C'est sûr qu'il y a beaucoup de conditions, là, mais où la présence de Dieu va pouvoir venir parmi les hommes. Une habitation au milieu de son peuple. Donc, c'était son œuvre, son initiative. Mais il fait l'honneur à son peuple d'exécuter cette œuvre-là. C'est l'œuvre de Dieu, la construction du tabernacle, mais c'est son peuple qui le fait, qui l'exécute, qui la planifie, qui l'organise et qui fait le travail du début à la fin. Et Dieu leur donne, leur a tout donné. Il leur a donné des descriptions très précises, des plans de construction. Il leur a donné l'intelligence pour bien comprendre ce qu'il leur demande et bien le planifier, bien l'exécuter, travailler en équipe. Il leur donne la sagesse même dans les décisions qu'ils auront à prendre. S'ils arrivent face à un imprévu, il leur donne un bon jugement pour prendre les bonnes directions. Mais la sagesse pour savoir comment collaborer. C'est pas évident là, quand on est tous des personnes différentes, avec des capacités différentes. Ça prend de la sagesse. Il donne aussi les capacités manuelles même aux hommes et aux femmes qui vont travailler à la construction du tabernacle pour faire quelque chose de beau, de précis, qui va être digne de la grandeur de Dieu. Et c'est Dieu qui donne ce talent-là, ces capacités. Il leur donne aussi la volonté à chacun d'eux. On voit plus tard qu'ils ne renoncent pas à leur travail. Ils l'exécutent jusqu'à la fin, ils persévèrent. Ce n'est pas une œuvre que des hommes ont inventée, ont pris l'initiative de faire et qui finalement va tomber à l'eau. Il y a combien de projets qu'on voit dans le monde qui finalement n'aboutissent pas. Mais ici, Dieu leur donne même la volonté de persévérer jusqu'à la fin. Il leur donne les ressources. Donc en fait, il donne tout. Il leur donne même la protection pendant cette période-là, pour s'assurer que rien ne vienne faire obstacle, d'où le nom même de Bezaliel. Rien ne peut faire obstacle à la construction du tabernacle. Donc Dieu vraiment donne tout et n'a aucune excuse pour ne pas obéir et pour ne pas faire le travail qu'il leur donne. Mais il ne fait pas le travail à leur place. C'est quand même eux qui se lèvent le matin, qui disent « On va aller travailler, on va continuer l'œuvre qu'on a commencée hier. Et on va le faire pour glorifier Dieu. » Et volontairement, ils vont au service de Dieu. Dieu les a appelés, mais il ne les contrôle pas comme une marionnette. Il leur fait faire le travail. C'était totalement exclu pour eux de chercher une gloire personnelle. C'est évident, là. C'est Dieu qui leur donnait tout. Ils étaient en train de construire la demeure de Dieu. Par contre, humainement, c'est facile de tomber dans ce piège-là. Bezaliel, Oliab, ça a peut-être même été une tentation pour eux, je ne sais pas. Ça aurait été une tentation pour moi. Dieu m'appelle par mon nom pour faire ce travail-là. Il me nomme devant tout le peuple. Wow! Mais c'était complètement exclu de faire cela. L'honneur n'était pas pour eux. L'honneur était simplement dans le fait qu'ils participaient à l'œuvre de Dieu. C'est un immense honneur. C'est bien supérieur à la gloire personnelle qu'on pourrait retirer de nos propres œuvres, le mérite qu'on pourrait se donner. Être conscient qu'on est en train d'accomplir l'œuvre de l'Éternel, le Créateur, c'est le plus grand honneur qui soit. Et Dieu leur a fait honneur dans un sens, puisqu'il a écrit le nom de Bezaliel et d'Oliab dans sa parole, et nous le lisons des milliers d'années plus tard. Leur nom est passé à l'histoire. Mais leur nom est honoré, en fait, parce qu'ils se sont joints à Dieu. C'est par leur union à Dieu, par leur service, qu'ils sont honorés. Contrairement à plusieurs grands de ce monde qui sont souvent listés dans la parole de Dieu, ou les rois de la terre qui cherchent une gloire personnelle et passer à l'histoire pour des actes qu'ils ont faits, démontrer leur intelligence. Ici, même Bezaliel ne peut même pas se vanter d'avoir l'intelligence ou les capacités. C'est Dieu qui lui a tout donné. Donc, la construction du tabernacle était l'œuvre de Dieu, exécutée par son peuple, avec les capacités que l'Esprit leur a données, et même toutes les ressources que l'Esprit leur a données. Ça nous aide à comprendre, dans le fond, le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, les paroles de Jésus, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Comment Jésus a pu dire « Je bâtirai mon Église » et que ça soit vrai, alors qu'il n'est même plus sur la terre en train de la bâtir? Mais Jésus ne ment pas. Comment Jésus peut être en train de bâtir son Église s'il n'est plus sur terre parmi nous, qu'il est remonté au ciel avec Dieu? C'est que Jésus l'a fait par son peuple. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et Jésus, c'est Dieu. Donc, Dieu bâtit l'Église. Mais cette construction de l'Église, et là, je ne parle pas du bâtiment, je parle des hommes et des femmes qui sont assemblés ensemble et qui sont édifiés, qui sont sanctifiés, qui sont amenés à la perfection et auxquels Dieu ajoute. C'est comme des pierres qui sont ajoutées au bâtiment. Mais tout ça, c'est construit par l'œuvre même de l'édifice lui-même, en fait. C'est son peuple qui bâtit l'Église pour Jésus. Ou Jésus le fait à travers eux, par eux. Donc, l'Église, c'est le peuple de Dieu et c'est en même temps la maison que Dieu est en train de construire. Et Dieu a déterminé quels seront les matériaux pour cette maison-là. Comme il avait déterminé, vous allez utiliser l'or, l'argent, tel matériau, tel bois. Et il a aussi déterminé quel matériau allait être utilisé pour sa maison spirituelle, pour l'Église, c'est-à-dire nous. Mais ça, c'est une vérité qu'on découvre davantage dans le Nouveau Testament, mais qui nous a élus. Et il a choisi une diversité de matériaux qui provient de toutes les nations de la terre et du peuple d'Israël. Donc, il a comme greffé les autres nations au peuple d'Israël pour former son Église aujourd'hui et bâtir sa maison. Mais il les a élus dans son choix déterminé, en donnant un rôle à chacun même. Et cette construction de l'Église, que le Nouveau Testament appelle l'édification, c'est comme de bâtir un édifice, mais l'édification, c'est l'œuvre de Jésus, qui est Dieu, exécutée par des hommes et des femmes. Et comme tout le peuple d'Israël était amené à contribuer à l'œuvre, dans le fond, de la construction du tabernacle, c'est encore plus clair dans le Nouveau Testament que chaque individu, chaque âme que Dieu ajoute à son Église est appelé à contribuer à l'édification de l'Église, d'une manière ou d'une autre. Certains sont nommés responsables pour un groupe, d'autres sont appelés à être assistants pour vraiment venir supporter le responsable, d'autres sont appelés simplement à y participer, à travailler en suivant les directives de d'autres. Mais chacun ont le même honneur de participer à cette grande œuvre de Dieu. Et l'édification, la construction de l'Église, présentement, c'est l'œuvre principale de Dieu dans cette période de l'histoire. Donc, c'est un immense honneur que Dieu nous fait d'y participer. Mais de même qu'il était exclu dans l'Ancien Testament de chercher une gloire personnelle pour le service de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux qui garde la gloire, c'est totalement exclu aujourd'hui aussi de chercher une gloire personnelle. Et c'est très facile de tomber dans le panneau, de servir dans l'Église pour en chercher une valorisation, une reconnaissance par nos pères, chercher des félicitations, chercher même une identité par ce que l'on fait. Comme si quelqu'un est bon pour, je sais pas moi, pour balayer, puis il est valorisé par le balai qu'il passe, puis du jour au lendemain, on lui demande d'arrêter de balayer, de faire d'autres choses. C'est comme s'il perd toute son identité. Ou si jamais on le critique pour le travail qu'il fait, tout tombe, parce que c'est comme si tout son service pour Dieu, là, la valeur qu'il a, c'est le travail qu'il fait. Mais c'est un danger, ça. En fait, la valeur qu'on a, c'est de servir le grand Dieu de l'univers, peu importe ce qu'il nous demande de faire. Et Dieu promet qu'il nous donne par son Saint-Esprit les capacités pour le faire. Peu importe ce qu'il nous demande. Pour certains, c'est plus de parler. Pour d'autres, c'est d'aider. Pour d'autres, de prier. D'autres, de donner. Et de multiples façons. Mais c'est exclu de se glorifier. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Même nous, même la manière dont nous sommes faits, cela vient de Dieu. Même ce qu'on a depuis la naissance, en fait, ça vient de Dieu. Et Jean-Baptiste le disait dans Jean 3, 27, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 4, « Qu'est-ce que tu as qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Parce que les Corinthiens avaient tendance à se glorifier. Puis, il y avait de la compétition entre eux. On ne peut pas les condamner parce que ça nous arrive nous aussi. Mais Paul leur dit, « OK, mais arrêtez, là, Paul. Qu'est-ce que vous avez, là, chacun de vous, pour lequel vous pouvez vraiment dire que vous avez du mérite? Tout vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et plus loin, au chapitre 12, dans 1 Corinthiens, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc les dons de l'Esprit, la manière dont le Saint-Esprit nous équipe, même les ressources qu'il nous donne pour contribuer à l'Église, il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est anathème. Et nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par l'Esprit. Même la foi qu'on a, même la compréhension qu'on a de cette vérité-là, que Jésus est Dieu, il est le Seigneur, même ça, c'est l'Esprit qui nous l'a donné. On ne peut même pas se vanter même de cela. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'Esprit donne à chacun ce qu'il juge être bon, pas seulement pour cette personne-là, mais pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que Paul va dire que tout se fasse pour l'édification. Si quelqu'un prétend avoir un don spirituel, puis qu'il l'exerce, puis qu'en réalité, ça ne concerne que lui-même, sa petite personne, et même ça crée des troubles dans l'Église, et il va même à l'opposé de l'Église, c'est quelque chose qui cloche. Le Saint-Esprit nous fait un don pour l'édification de l'Église, c'est-à-dire pour la croissance spirituelle de chacun, pour l'avancement du royaume de Dieu aussi, pour l'évangélisation, la croissance dans la connaissance de Dieu, la croissance dans la capacité aussi de faire du bien, les bonnes œuvres, en fait, que nous faisons les uns pour les autres. Donc, tous les dons que le Saint-Esprit nous donne servent à cela. Mais c'est tout un honneur. Comme on ne peut pas se glorifier parce que tout vient du Saint-Esprit qui nous l'a donné, en même temps, on est dans la gloire, on peut se glorifier d'être participant de cette œuvre-là grandiose, de la construction de l'Église. Et elle va s'achever lorsque, finalement, Jésus va revenir. Et là, on va pouvoir fêter pour l'éternité. Et on va se réjouir, entre autres, de la participation qu'on a eue à cela. On s'accumule des trésors, des sujets de joie au ciel, où on sera même félicité, récompensé même. Et on va se réjouir ensemble, on va participer à la gloire de Dieu. C'est déjà une gloire d'y participer sur terre. Donc, c'est sûr qu'indirectement, le texte est en train de nous dire « Travaillez avec zèle. » Si c'est ça qui est le plus honorable, si c'est ça qui a le plus de valeur, bien, mettez-y toute votre énergie. Travaillons avec zèle pour le Seigneur. On peut utiliser nos dons, les capacités que Dieu nous a données pour embellir le monde où on se trouve, embellir notre situation, notre confort, réaliser nos projets personnels. Mais on doit avouer que c'est un peu un gaspillage. C'est même beaucoup un gaspillage. On peut utiliser ces capacités-là que Dieu nous a données pour l'Église. Ça ne veut pas dire de ne pas penser à son confort aussi puis à son bien-être, mais la priorité, comme Benoît le disait dans sa prière, notre priorité numéro un, c'est Jésus. Et ça se reflète même à la manière dont on donne, la manière dont on investit notre argent. Certains ne savent pas comment servir le Seigneur, mais le service, c'est commencer par faire ce que Dieu veut qu'on fasse là où on se trouve. Éduquer nos enfants à la maison. Être un bon mari pour notre épouse, être une bonne épouse pour notre mari. Aimer. Une chose très simple et où chacun peut s'y impliquer, c'est de s'intégrer dans un groupe dans l'Église. Où est-ce que là, on peut apprendre les besoins de chacun et voir comment on peut les aider. On peut s'encourager, on peut s'enseigner les uns les autres. Pour cela même, étudier la Bible, lorsqu'on dit qu'on tient un culte personnel et on lit la Bible à tous les jours, c'est pour notre croissance, mais on peut le faire consciemment pour acquérir des connaissances sur Dieu, sur son plan, pour aider nos frères et sœurs. Même assister aux cours bibliques et prendre la peine là, d'apprendre les choses, de voir, de corriger même nos mauvaises manières de voir, nos mauvaises pensées, de délaisser les influences de la philosophie. Tout cela, ça nous fait du bien, mais on peut le faire en étant conscient qu'on est en train de servir l'Église aussi. Aider nos frères et sœurs dans ce qu'ils traversent, à être une source de sagesse pour eux, de conseils. Et ça, tout chrétien peut être appelé à le faire. Et ça, c'est une tâche qu'on peut accomplir même, qu'on peut continuer d'exercer jusqu'au jour de notre mort. Même quelqu'un qui est sur son lit, à l'hôpital, peut continuer cette œuvre-là et d'encourager ses frères. Et une autre œuvre qu'on peut tous faire aussi, où on peut travailler avec zèle, c'est l'évangélisation. Et ça fait partie même de l'édification de l'Église. Lorsque Dieu dit qu'il bâtit son Église, ce n'est pas seulement parce qu'il est en train de faire grandir ceux qui sont déjà dedans, mais c'est parce qu'il en ajoute aussi. Donc, notre œuvre devrait être aussi vers l'extérieur, de parler, d'être des témoins. Dieu ajoute à l'Église, et c'est son œuvre, c'est lui qui sauve des gens, qui les convertit, qui les appelle à lui, mais il le fait à travers nous. Comment ils vont entendre ce message-là s'il n'y a personne qui va leur dire? Et ça, chacun de nous, on est appelé à être un témoin de ce que Jésus a fait pour nous. Là où on se trouve, auprès des voisins où on se trouve, auprès des membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Dieu nous donne des œuvres à accomplir. Même, on voit dans la Bible qu'il nous a recréés en Jésus-Christ pour que nous accomplissions des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il promet qu'il nous donne les capacités pour les accomplir. Donc, vraiment, on peut voir la vie chrétienne comme étant une série d'œuvres et de tâches qu'on accomplit pour Dieu, parce que nous sommes chrétiens. Donc, un travail, un service pour Dieu. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi un repos que Dieu nous donne. Et on va lire la deuxième partie, au chapitre 31, à partir du verset 12. Exode 31, verset 12. « L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats. » Ou vous... comment on dit dans la Louis II? « Vous ne manquerez pas d'observer. » En hébreu, dans l'original, c'est « Vous observerez pour observer. » C'est comme, c'est répété, là. C'est vraiment important, mes sabbats. « Car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. Celui qui le profanera sera puni de mort. Toute personne qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les Israélites observeront le sabbat, ils célébreront le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Et lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Déjà, Dieu avait donné son commandement sur le sabbat. Ça fait même partie des 10 commandements. Il en a parlé à plusieurs reprises, il insiste beaucoup là-dessus. Et là, à la fin de la description de tout ce qu'il doit faire, après avoir donné même les directives pour le travail, il revient là-dessus une dernière fois. C'est les dernières paroles que Jésus donne à Moïse avant qu'il revienne vers son peuple. Vous allez respecter mes sabbats, vous allez le pratiquer. Et Dieu ne pourrait pas le dire de manière plus claire, là. Aucun ouvrage ce jour-là. Pas ce que vous jugez être fatigant, là. Aucun ouvrage. À chaque 7e jour de la semaine, vous ne travaillerez pas. On voit son importance. Il dit, vous respecterez absolument dans toutes les générations, à perpétuité. Mais on comprend, c'est tant que mon alliance dure avec vous, ça fait partie de mon alliance. Et même tout profanateur, toute personne qui négligera le sabbat, sera puni de mort. Un peu plus loin, on voit, il sera retranché de son peuple. Ça semble être la même situation. C'est sûr que s'il meurt, il est pas mal retranché de son peuple. Mais Dieu le dit de 2 manières pour montrer que ceux qui font partie de son peuple, ce sont ceux qui respectent son sabbat à chaque semaine. Ça devient même le signe, mais Dieu le spécifie. Ça va être le signe entre vous et moi, un signe visible même de l'extérieur. Les autres nations vont voir, ah ça c'est la gang là, qui fête à chaque semaine, à chaque 7 jours, là, ils prient leur Dieu. Ça va être le signe distinctif, il dit, entre vous et moi qui vous sanctifie. Qui vous sanctifie, c'est qui vous met à part, qui vous rend saint, puisque je suis saint. Vous êtes identifié à moi. Et ce qui va être le signe le plus évident extérieur, c'est le sabbat que vous célébrez à chaque semaine. Un jour entièrement consacré à Dieu, un jour de fête, un jour de repos en famille. Mais on voit toute la sagesse de Dieu ici. Ça allait devenir vraiment le cœur de la religion juive. Là. Et à travers les siècles, ils n'ont pas perdu cela. Là. C'est sûr que pendant une bonne période, ils pratiquaient le sabbat de manière hypocrite. Ils avaient perdu même la raison pour laquelle ils le faisaient. Mais c'est devenu vraiment le cœur de tout leur service religieux. Et c'est un rappel, semaine après semaine, qu'ils appartenaient à Dieu, qu'ils avaient été choisis pour être son peuple. Et c'est ce qui les identifie à lui. Il y a une chose qui saute aux yeux, c'est la proportion. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Ça aurait pu être 1 jour de travail, 6 jours de repos. Mais on ne connaît pas toutes les raisons pourquoi, là. Et même, on voit même que Dieu fait un parallèle avec la manière dont il a créé l'univers. Il aurait pu créer 1 jour aussi, là. Mais Dieu montrait par là, je pense qu'il y a un... Ça reste un peu mystérieux, ça. Puis même les théologiens, beaucoup écrivent là-dessus, puis on ne comprend pas tout pourquoi, là. C'était pédagogique pour Dieu, pour instruire son peuple, pour nous amener finalement à Jésus-Christ. Mais on voit quand même une proportion, et je pense que c'était une période où est-ce que le travail était mis de l'avant, c'est-à-dire être un serviteur de Dieu sur la terre, c'est premièrement caractérisé, ou en grande partie, par l'énergie qu'on lui dévoue. Le temps, nos talents, ce que l'on fait pour lui, nos œuvres. Mais c'est aussi un repos qui est en Dieu. Donc, le travail, c'est ce qui occupe le plus le peuple de Dieu. Mais le repos en Dieu, c'est ce qui le distingue le plus des autres peuples. C'est ce qui l'identifie le plus. Parce que dans les autres nations, il y en a beaucoup qui travaillent fort aussi. À l'époque d'Israël, qui servaient leur Dieu, qui avaient toutes sortes de pratiques et qui s'imposaient toutes sortes de restrictions. Mais ils n'avaient pas ce repos-là que Dieu donnait à son peuple. Ça, c'était une marque distinctive. Et on voit que le sabbat, le repos en Dieu, ça préparait la venue de Christ, qui est vraiment l'envoyé sur terre de Dieu pour apporter un repos, mais un repos qui est permanent, qui est continuel, et qui est pas seulement physique, qui est physique, mais qui est aussi spirituel, en fait, qui vient pour tout notre être, et qui est éternel. Donc, tous les hommes sur la terre savent qu'ils ne sont pas dans l'état qu'ils devraient être. On sait tous, intuitivement, il y a quelque chose qui cloche, il y a un problème. Certains vont reconnaître qu'ils font le mal et ils essaient de s'en sortir. D'autres ne veulent pas reconnaître ça, mais ils se rendent compte quand même qu'il y a un problème. Le problème de la souffrance, le problème de la mort. Et tout le monde, veut pas, finit par chercher une solution à cela. Et c'est ce qui a fait naître toutes les religions dans le monde. Les religions tentent d'offrir une solution au problème. Alors, il faut faire des choses pour sortir de cet état-là de culpabilité, de malédiction qui est évident. Mais c'est comme si tout ce que les hommes tentent de faire, c'est de faire des œuvres ou d'adopter des habitudes, un nouveau style de vie pour essayer de sortir de cet état-là. Mais c'est impossible. La mort reste là, le vide intérieur reste là. Même ceux qui cherchent une raison à leur existence ne trouvent pas de réponse. Et ceux qui cherchent, ceux qui comprennent qu'il y a un Créateur et qui est sûrement fâché en voyant nos fautes, ne trouvent pas non plus de solution pour se rapprocher de lui, malgré toutes les bonnes œuvres dans lesquelles ils pourraient s'investir, le bénévolat. Ils n'auront jamais une certitude, une satisfaction de dire « Ah, Dieu est réconcilié, je suis réconcilié avec Dieu. » Le doute va rester là. Et même la peur de la mort va rester, la peur de se retrouver devant Dieu au jour du jugement. Mais Dieu est intervenu pour accorder ce repos-là, enfin la paix, le repos de tout ce stress-là, cette peur, ces œuvres pour essayer de sortir de cette vie de péché. Dieu est intervenu. Et si vous ne le connaissez pas, Jésus-Christ, personnellement, mais Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils sur la terre, voyant que nous avions péché, voyant que c'était impossible pour nous de nous sortir de cela et de la mort éternelle qui nous attendait loin de Dieu, parce que Dieu est saint. Et Dieu le Père a envoyé Jésus sur terre pour cela, pour mourir à notre place, porter la peine de nos péchés sur ses épaules. Et lorsqu'il a été cloué à la croix, tous ceux qui croient en Jésus, en fait, ont vu leurs péchés transférés sur Jésus. Même nous qui croyons 2000 ans après que cet événement-là se soit produit, il est encore bon pour nous. Et en fait, il est bon jusqu'à la fin des temps. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour payer la dette des péchés, leurs péchés sont enlevés de leur compte et sont mis sur le dos de Jésus. Et ils sont sauvés. Ils deviennent saints et leur destinée de mort éternelle est enlevée. C'est un vrai repos que Dieu donne. Un repos parce que il n'y a plus des œuvres à accomplir pour espérer gagner la grâce de Dieu. La grâce est donnée gratuitement. Et c'est vraiment une paix, un repos pour l'âme, en fait, qui est donné. Il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. On lit dans Hébreux 4. Un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, encore aujourd'hui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. On devrait faire des milliards d'œuvres pour essayer de gagner la faveur de Dieu, espérer être pardonné. Mais celui qui trouve le repos en Jésus-Christ est libéré de cela, de ses œuvres, et se repose de ses œuvres. Donc, comme on voyait sous l'Ancienne Alliance, le peuple travaillait 6 jours, se reposait 1 jour. Mais sous la Nouvelle Alliance, c'est différent. On est à la fois appelé à servir Dieu en tout temps, en tout lieu, en tout instant, en tout moment, dans tous les contextes de notre vie. On est en même temps dans le repos de Jésus qui est continuel. C'est un peu plus difficile à comprendre, c'est sûr. Ouais, par son Saint-Esprit, Dieu nous veut nous convaincre en fait que c'est pas seulement pour la vie sur la terre qu'il nous accorde son repos. C'est pour la vie éternelle. Et ça vient avoir un effet sur changer le statut non seulement de notre être physique, mais spirituel aussi. Notre esprit est sauvé. Et Jésus dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Là, il s'adresse à un peuple qui lutte pour essayer d'accomplir la loi de l'Ancien Testament en espérant avoir la vie éternelle et qui ne savent même pas s'ils l'ont, ils ne savent pas s'ils peuvent l'avoir. Et même, il pose la question à Jésus, « Comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? » Il s'adresse à un peuple qui est chargé, fatigué. Il leur dit, « Venez à moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Il semble y avoir une contradiction ici. Pour nous, le repos, c'est de rien faire assis sur notre sofa à regarder la télé. Mais Jésus décrit le repos qu'il nous offre comme un travail. Mon joug, un joug, c'est un morceau de bois qu'on mettait sur les animaux pour les diriger alors qu'ils travaillaient dans les champs. Et ça pouvait être lourd, un lourd fardeau. Ici, la distinction que Jésus apporte, c'est que mon joug, mes instructions que je vous donne pour votre vie, mon joug est léger, parce que je suis doux et humble de cœur. Donc, quand Jésus nous appelle, il nous appelle à la fois au repos de nos œuvres, mais il nous appelle en même temps à accomplir des œuvres, mais pas dans l'espoir de gagner la grâce de Dieu, mais parce qu'il nous a fait grâce. C'est toute la différence. On n'accomplit pas les œuvres aujourd'hui, on ne sert pas Dieu dans l'espoir d'obtenir la grâce, dans l'espoir d'être sauvé. On le fait parce qu'on a gagné le repos, parce qu'on est dans le repos de Dieu, parce qu'on sait qu'on a la vie éternelle, qu'on a obtenu la grâce. C'est pour ça qu'on travaille. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais une fois qu'on est sauvé, c'est pour les œuvres. Et on doit avouer que sur cette terre, la vie chrétienne est principalement caractérisée par le travail. On doit travailler. Même Paul dit qu'il traite durement son corps. Il y a des grands bouts qu'il ne dormait pas beaucoup, il ne mangeait pas beaucoup. Même il a été souvent blessé, maltraité, il a fait de la prison. Mais il le faisait joyeusement et il acceptait la souffrance qui était reliée au service pour Dieu. En même temps, il goûtait le repos parce qu'il était dans la paix. Donc, le repos est toujours là, c'est continuel. On peut toujours se reposer en Dieu. On trouve en lui la paix, la joie, même à travers les épreuves, même dans la souffrance reliée à son service. Dieu nous fait grâce déjà de nous faire goûter sur la terre le repos qu'il nous promet. On est déjà entré dans son sabbat. Mais ce n'est qu'un avant-goût. Lorsque Jésus reviendra nous chercher, qu'on entrera dans cette ère éternelle, là, le repos sera continuel et à son summum. Plus du tout de souffrance. Jésus dit que là, on va enfin se reposer de toutes les œuvres qu'on aura accomplies. Ça veut dire même qu'on va être soulagé des souffrances liées à notre service, aux œuvres qu'on accomplit pour Dieu. Et c'est par la foi que nous persévérons à faire ces œuvres-là, que nous supportons la souffrance, le rejet, la persécution. Même la souffrance reliée au travail en équipe, ce n'est pas toujours facile en Église de travailler ensemble, de nous édifier. Parfois, ça passe par des reproches, des conflits. Dieu utilise tout cela pour nous faire grandir. Ce n'est pas facile. Il y a une forme de souffrance reliée à cela. Le fait qu'on soit encore, jour après jour, obligé de résister à la tentation du péché, que notre vieille nature soit toujours là en train de cogner à la porte pour nous tenter, qu'il y a des désirs qu'on pensait qu'on n'aurait plus, tout à coup, ça ressurgit. Il y a des souffrances reliées à cela. Mais on persévère parce qu'on sait que le repos qu'on goûte déjà par cet esprit en nous, un jour va être plein à son summum, on va être dans la félicité éternelle. Donc, c'est l'espérance en cela qui nous permet de persévérer. Et le repos en Jésus, c'est le signe distinctif du peuple de Dieu, de l'Église. La manière dont nous passons à travers les épreuves, les gens de l'extérieur le voient. La manière dont nous restons unis à travers les épreuves, dont nous nous aimons à travers les épreuves, c'est le signe distinctif que nous sommes vraiment dans le repos de Dieu, que nous sommes dans sa paix. Et les chrétiens trouvent la paix, leur culpabilité s'en va. Ils n'ont plus peur de la mort, ils savent où ils s'en vont. Ils peuvent passer à travers les épreuves parce qu'ils se reposent en Dieu pour leur avenir et ils attendent sa délivrance, étant sûrs qu'il peut délivrer et qu'il va délivrer. Donc, il n'y a plus vraiment de proportion 6 pour 1. On n'a pas à se casser la tête avec ces chiffres-là, mais on est quand même caractérisé par le travail pendant le temps qu'on est sur cette terre. C'est ce qui nous occupe le plus, les bonnes œuvres pour nos frères et sœurs. Donc, exercer l'amour fraternel, la charité, comme on chantait tantôt. C'est l'amour pour nos frères et sœurs, ça. L'évangélisation, l'édification. Et le repos en Jésus, c'est ce qui nous identifie le plus, qui nous distingue des religions, des philosophies, de toutes les faussetés qu'il y a dans le monde, où le repos est inaccessible. Donc, le repos, c'est la réalité éternelle qui nous attend, mais qu'on expérimente déjà sur cette terre, qui est une démonstration que le Saint-Esprit est en nous et qu'il est réel. Et si on a trouvé ce repos-là, bien, restons-y. Ne tombons pas dans le légalisme. Le légalisme, c'est d'essayer de faire des œuvres pour obtenir la grâce de Dieu. On retombe dans l'ancien moule. Là, on sort du repos que Jésus nous a donné. Ne tombons pas non plus dans la liberté, dans le sens de faisons ce que l'on veut, mangeons et buvons, puisque c'est par la grâce et c'est gratuit. Mais en fait, on sort du repos aussi quand on fait ça. Et on s'attire toutes sortes de problèmes. Et on désobéit à Dieu. En fait, le repos que Dieu nous offre, lorsqu'on va dans le repos de Dieu, c'est qu'on mène une vie d'obéissance. La liberté que Jésus nous offre, c'est en obéissant à ses commandements qu'on l'a. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est par la foi qu'on y croit. Si on obéit aux commandements de Jésus, on va être véritablement libre et dans son repos. Et ce repos-là, Dieu veut qu'il soit collectif avec nos frères et sœurs. Donc, ça implique obligatoirement l'amour fraternel. Et Jésus, il dit, « Mais prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Donc, la manière de nous comporter en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas l'Église qui l'a inventé, comme certains historiens, dont chrétiens, le prétendent. Ce n'est pas les apôtres qui l'ont inventé. C'est Jésus lui-même qui a donné ses instructions, la manière dont il veut qu'on se comporte dans l'Église. Et ça revient avec la fin du chapitre 31 d'Exode qu'on a lu. La manière dont Dieu voulait que son peuple se comporte, c'est Dieu qui l'a donné. Même on lit que Dieu donne les tables du témoignage écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu, si on résume, il donne tout. En Jésus-Christ, il nous donne une identité, il fait de nous son peuple. Il nous donne un travail à accomplir. Faire des disciples, édifier son Église. Il nous donne toutes les capacités, toutes les ressources dont on a besoin pour accomplir le travail qu'il nous demande de faire. Tout ce qu'on a besoin, il nous le donne quand on est en Jésus-Christ. Donc, travaillons. Il nous donne en plus le repos. Déjà, il nous fait goûter à ce repos-là. La paix, la joie, l'harmonie, l'amour. Et on ne travaille plus dans l'espoir peut-être de trouver le pardon de Dieu et sa grâce. Mais sachant que nous sommes pardonnés même que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en esprit. Et il nous donne une loi. Et la loi de Jésus, elle se résume à aimer votre prochain, aimer vos frères, aimez-vous les uns les autres. C'est son commandement. Donc, lisons tout le Nouveau Testament à la lumière de ce commandement-là, la manière dont Jésus veut que nous agissions. Mais que Dieu nous aide à garder les yeux sur lui, garder le focus sur lui pour avoir les bonnes priorités dans nos vies. Amen.